RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Bonjour à tous, c'est avec les grandes gueules que ça se passe, comme tous les jours, de 9h à midi, pour discuter, pour débattre. Bonjour Olivier.
Salut Alain, bonjour les grandes gueules, bonjour à tous.
Barbara Lefebvre est avec nous, l'enseignante. Bonjour Barbara.
Bonjour les amis.
Laura Varton-Martinez, sophrologue et des nôtres aussi, bonjour.
Hola todos.
Et puis Charles Consigny, maître Charles Consigny nous accompagne. Bonjour Charles.
Bonjour à tous.
De quoi va-t-on parler aujourd'hui dans les Gigi? On a un programme riche, intense. On va bien sûr revenir sur les violences après la finale de la Ligue des Champions. Nous recevrons Arthur tout à l'heure à 10h. Nous serons aussi à 11h avec le député européen Rassemblement National et ancien commissaire de police Mathieu Vallée. Commençons tout de suite justement par ces violences après la finale de la Ligue des Champions samedi soir et le fait que décidément on n'arrive pas à avoir des liesses populaires sans débordement dans la capitale. Ce qui est intéressant, avant de parler du bilan et de regarder qui est encore en garde à vue et ce qui aura comme comparution immédiate, c'est d'écouter le président de la République, Emmanuel Macron. C'était l'année dernière, après la finale, et puis c'était ce dimanche, après la finale.
Mais rien ne peut justifier ce qui s'est passé les dernières heures dans la capitale et dans le pays. Rien. Les affrontements violents qui se sont tenus sont inacceptables. Et je veux ici vraiment remercier ceux qui maintiennent l'ordre, ceux qui ont secouru. Ces incidents sont très graves, ils sont inacceptables. Je vous le dis, la réponse de l'État sera à la hauteur. Nous poursuivrons, nous punirons, on sera implacable. Le football, ça n'est pas cela, en aucun cas. C'est pas le foot, ça. C'est pas le sport, c'est pas ce qu'on aime. Donc, merci à nos policiers, à nos gendarmes. On sera intraitable avec ceux qui ont été attrapés. On ne veut plus voir ça. Fini. On en a ras-le-bol. Terminé. On en a ras-le-bol.
C'est ce que disait le président de la République en 2025. C'est ce qu'il a dit après avoir reçu l'équipe du Paris Saint-Germain à l'Élysée. Ras-le-bol. On sera intraitable. Pourtant, le scénario, malheureusement, a été le même.
Oui, c'est terrible, cette archive. Hein. C'est implacable, puisque quasiment les mêmes mots d'une année sur l'autre pour dénoncer une violence qu'on n'arrive pas à contenir. Je pourrais rajouter ce que disait aussi Laurent Nunez, qui explique que la situation était globalement sous contrôle. Ça fait penser, alors peut-être au plus ancien, c'est-à-dire quelque chose. Vous vous souvenez de Georges Marchais, c'était le leader du Parti communiste et qui expliquait que le bilan des pays de l'Est était globalement positif. Voilà, alors quand on utilise en général globalement, c'est qu'il y a un loup. Le bilan est terrible. Il y a eu 178 blessés chez les forces de l'ordre. Il y avait pourtant 22 000 policiers déployés, dont 8 000 à Paris. Ça n'a pas suffi pour empêcher les violences, qui n'ont pas touché d'ailleurs que la capitale. 71 villes n'ont pas été épargnées par les débordements. Clermont-Ferrand, Montpellier, Bordeaux, Niort, Montluçon, je ne vais pas toutes les citer. Alors certes, il y a eu des interpellations, 890 nous dit ce matin Laurent Nunez, mais finalement combien de personnes seront véritablement jugées et sanctionnées? Il y aurait encore 200 personnes en garde à vue. Les premières comparutions immédiates auront lieu cet après-midi, il faudra de voir précisément ce qui s'y passe, mais il y a un aveu d'impuissance. Pourquoi le maintien de l'ordre lorsqu'on sait que ça va déborder, ben finalement c'est un fiasco français.
Ça commence déjà par deux choses. Je vais être sympathique avec Monsieur Nunez aujourd'hui. Je vais pas lui remettre la faute sur lui parce que qu'on le veuille ou pas, les moyens étaient là, principalement sur Paris. Il y avait à peu près 22 000
sur toute la France et 8 000
à Paris.
Voilà.
À Paris, oui.
Donc on peut pas lui reprocher ça. Mais le problème est le suivant, c'est que la justice derrière ne suit pas. Là, oui, il y avait eu des condamnations de prison l'an dernier, mais on le sait très bien qu'à partir du moment où il y a minimum deux ans, les gens ne vont pas en prison. Donc en fait, il n'y a jamais de répercussions.
Ah ça, on verra ça cet après-midi.
Non, mais je te parle déjà sur celle de l'an dernier. la plupart ne sont pas n'ont pas passé une seule nuit en prison. Mmh. Donc en fait, ils sont en totale impunité. Et puis avoir aussi la complicité de certains personnages politiques. Je pense notamment en premier lieu à Monsieur Emmanuel Grégoire, qui
le maire
qui,
de Paris,
qui remet la faute sur les médias, qui en fait manipule l'opinion publique. Moi, j'aimerais que ce monsieur, dans ces cas-là, vu que c'est que de la manipulation, que ce n'est pas arrivé, qui rembourse les entreprises et qui donne une prime avec ses propres deniers à l'ensemble de ces personnes qui vont nettoyer et qui ont nettoyé les places de Paris. Voilà. Je veux dire, j'ai vu. Alors, ça me fait toujours plaisir, la gauche qui se revendique cœur.
Et il va même plus loin, parce qu'avant le match, Clémence Guettet, députée France Insoumise, demandait aux policiers de ne pas gâcher la fête populaire.
Donc, j'ai envie de dire à cette gauche qui soutient les petits ouvriers, voilà, les gens avec des bas salaires, comment on peut dire que, et le nier, quand on voit que ce sont les nettoyeurs publics de la mairie de Paris qui ont à 9h du matin, le dimanche, qui avaient déjà quasiment tout nettoyé. Et pardon, c'est un manque de respect total. Et aussi Karl Olive qui décide de monter sur une voiture.
On va pas tout faire en même temps, Laura.
C'est les personnages politiques qui donnent raison à cette délinquance.
Charles Consigny.
Pourquoi est-ce qu'on n'a pas su empêcher les débordements, quoi, une fois de plus?
Parce que ce qu'ils craignent, imaginez la même chose pendant plusieurs mois. Ce serait compliqué à gérer. Qu'est-ce qu'ils craignent le plus? Ils craignent des émeutes. S'il y a un mort, il y a des émeutes après. Vous voyez bien le nombre de mecs...
Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui participent à ces violences, et parfois des mineurs.
Donc, non, mais...
Encore vu un retraité faire ça?
Non, c'est sûr. Un jeune retraité peut-être.
Oui.
Mais moi, je suis très frappé par la racaillisation d'une partie de notre jeunesse et par, en gros, toutes ces caïra désœuvrées qui ne savent pas quoi faire d'autre que de venir tout casser au moindre prétexte. Bon. Donc, moi, je serais favorable à des mesures beaucoup plus drastique que ce qu'on fait pour l'instant. Je trouve que c'est une... Pour parler pompeusement, c'est une rupture du pacte social. Mais c'est vrai, là, pour le coup. C'est vraiment une manière de se mettre en séparation avec le reste du pays. Je cherche un peu mes mots.
Que la plupart des gens qui font ça... Moi, je vais prendre mon exemple personnel. J'étais au Parc des Princes samedi soir. Pour voir le match sur grand écran, il y avait une ambiance de folie sur le parc. Je suis sorti, je me suis retrouvé porte de Saint-Cloud pour essayer de rejoindre Paris. Et là, c'était des scènes de guérilla urbaine, avec des tirs de mortier dans tous les sens.
Non, c'est pas vrai, c'est une manipulation médiatique.
J'ai terminé, ça courait dans tous les sens, etc. Bon, il y avait beaucoup de jeunes. Mais je pense que la plupart prennent ça pour un jeu. On sait que, en fait, ils sont surexcités. On voit aussi, il y a des petites bonbonnes de protoxyde d'azote qui sont sur le trottoir. Ça sent beaucoup le shit aussi. Ils sont surexcités et le jeu, c'est effectivement de défier les forces de l'ordre, de péter du mobilier urbain.
Oui,
il y avait des vélos en libre-service qui ont pris en feu. Il y a un jeu. Et donc, comment ça se fait que cette partie de jeunesse prend ça pour un jeu alors que les conséquences sont graves?
C'est vrai, les conséquences sont graves, mais pas pour eux.
Je pense que d'abord...
Les 800 millions, c'est les Français qui vont les payer. Hein.
D'abord, il faut incarcérer ceux qu'on a interpellés. Je pense que ils peuvent pas sortir de là avec juste une petite sanction bidon. Je pense qu'il faut de la prison ferme. Ensuite, je pense qu'il faut les condamner sévèrement à indemniser ce qu'ils ont fait. Et ensuite, je pense que, spontanément, je me suis dit, ceux qui sont binationaux, par exemple, faudrait leur enlever leur passeport français.
Oh là là.
Je veux dire, oui, mais bien sûr.
Oh, la pente parce que
c'est une, mais bien sûr, puisque c'est une manière de détester notre pays aussi, de faire ça. Tu vois ce que je veux dire? À quel point tu es,
patriote? Des
non, je te parle de ceux qui ont deux passeports, déjà.
Tu sais, le fils du chanteur Khaled, qui monte sur la statue Jeanne d'Arc et qui tweet, Paris est à nous, pleure, fils de pute.
Voilà.
Bon, je pense que. Moi, je pense qu'il faudrait peut-être effectivement.
Les paroles de son père étaient meilleures,
je pense. Oui, je pense que, en même temps, c'était écrit par Jean-Jacques Goldman.
Bon. Mais tu vois, parce qu'Olivier raconte qu'il est allé au Parc des Princes. Moi, c'est mon quartier.
Avec des familles, j'étais apeuré, bien sûr.
J'étais chez moi, donc deux heures avant le match. Et effectivement, t'as plein de gens qui étaient dans les bars, à la terrasse des bars, des supporters, qui étaient tranquilles. Par contre, ce que tu voyais s'installer, tu voyais des petits groupes, tu vois, comme ça, qui arrivaient. Moi, j'en ai vu certains mettre, à ce moment-là, les t-shirts du Paris Saint-Germain, et qui étaient dans la tente. Et un petit peu plus haut, tu avais des barrages de policiers, et je les ai vus sortir des coffres des voitures, mais des mortiers de, feux d'artifice par brassée entière. Donc tu vois que malgré leurs efforts,
des mortiers qui sont censés être interdits à la vente.
Ben, mais tu vois que malgré leurs efforts et malgré le dispositif, il y a effectivement des petits groupes qui se mettent en place et qui n'attendent qu'une chose, c'est la fin du match pour mettre la pagaille.
Je vois deux choses. D'abord, premièrement, ces jeunes dont on a vu effectivement qui, bien que désœuvrés, Charles, tu as raison, sont pleins d'énergie. Hein. Enfin, franchement, moi, pour secouer un feu tricolore, comme j'ai vu certains secouer des feux tricolores,
ou casser des abribus,
pour avoir une énergie physique, moi, je pense qu'il faudrait qu'ils le canalisent vers des choses plus intéressantes, parce que vraiment, ils ont de l'énergie, c'est pas des grosses feignasses. Hein. Ils en ont de la force, et ils sont survoltés par tant d'énergie, mais qu'ils en fassent profiter l'économie, apparemment non. Donc déjà, si à 16, 17, 18, 19, ils sont dans cet état de violence et d'impulsivité, d'absence totale de code de civilité, oui, car ça s'appelle comme ça, c'est que en amont, je pense, il y a eu quelques petits problèmes d'éducation. Donc encore une fois, on y revient. Je pense que quand on fera l'enquête de personnalité de tous ceux qui vont être en comparution immédiate aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va se rendre compte ? Déscolarisation, remarquée par l'institution scolaire depuis la primaire, voire le collège. Donc c'est des gamins dont on sait, je peux vous raconter tous les jours des histoires de gamins qui sont déjà en très grande dérive. Là, j'ai un membre de ma famille, ça fait 2 ans qu'il y a 2 gamins dans l'école primaire qui menacent et harcèlent tout le monde. C'est l'impunité totale. Les parents sont pareils. Eh ben, les gamins sont là. Et c'est tous les enfants qui, un après l'autre, quittent l'école. Ces deux-là, même ces familles le disent, et c'est dans une banlieue défavorisée, et les familles qui en sont victimes sont le même style que les 2 harceleurs. Ils disent, mais c'est nos enfants qu'on est obligé de sortir de l'école au bout d'un certain temps parce que personne ne réagit. Ces deux-là, c'est rien par rapport à tout le reste de l'école, mais on sait déjà comment ils vont continuer. Eh ben, c'est ceux-là qui finiront à déceler des poteaux. Donc ça, déjà, premier point, l'éducation. Une grande partie de ces familles sont des familles défaillantes pour qu'à 17 ans, les gamins fassent des choses pareilles. Deuxième point, qu'a dit Monsieur Nunez avant la finale. Il a dit, nous allons contrôler la situation. Non, on contrôle pas la situation, on l'empêche. Parce qu'excusez-moi, en décembre 2025, lorsque quelques éleveurs dans l'Ariège ne voulaient pas qu'on abatte leurs troupeaux sains, on a envoyé les centaures.
Oui, c'est vrai. Ouais.
On a envoyé les hélicoptères.
Il n'y avait pas de centaures hier dans Paris.
Ah là, là, on a bien contrôlé la situation contre nos éleveurs, contre nos agriculteurs. Mais contre les jeunes, hein, à qui faut faire attention, parce que Monsieur Macron, je vous rappelle, pendant les émeutes de 2024, il nous a expliqué que c'était l'oisiveté de l'été qui faisait qu'il y avait des émeutes. À eux, il n'y aura pas les centaures pour eux.
Non mais Barbara, et soyons...
Eh ben voilà, les deux poids, deux mesures de Monsieur Macron et de son maintien de l'ordre. Voilà,
mettons les pieds dans le plat, il y a des syndicalistes policiers.
Ah bon ?
Qui, quand on les interroge, nous expliquent qu'il y a eu des consignes d'y aller mollo. C'est le terme qu'a employé notamment une syndicaliste qu'on connaît, qui a dit il faut y aller mollo.
Pas contre les agriculteurs, par contre.
Pas de LBD, pas de... il faut laisser les faire, parce qu'effectivement, il y a des jeunes dans la rue, on a peur de l'incident, etc. Et finalement, essayons. Le magasin pillé, il y aura l'assurance.
Je voudrais qu'on écoute Samuel, parce qu'il est dans le quartier du Parc des Princes, justement. Samuel, bonjour.
Oui, bonjour.
Bienvenue Samuel. Comment vous avez vécu ce qui s'est passé, alors racontez-nous.
Alors, la vérité, c'est que bon, on est habitué aux événements sportifs dans le quartier, hein, entre Roland-Garros, Jean-Brun et le Parc des Princes. L'année dernière, ça a été vraiment comme un petit traumatisme. Et on se disait que cette année, on espérait qu'ils allaient prendre un peu l'expérience et que ça allait pas recommencer. Mais malheureusement, à un moment donné, je pense qu'on en a marre. Et je pense que, alors vous êtes dans le quartier, c'est insupportable. Mes voitures, ma voiture a été caillassée l'année dernière comme cette année, ils montent dedans. C'est des groupes de 15 scooters, les scooters en libre service, des jeunes de 15 ans, qui prennent des sens interdits devant les policiers, mais les policiers ne peuvent rien faire. Vous voulez qu'ils fassent quoi? Qu'ils les arrêtent tous et que ça lance des mortiers sur les vitres? En fait, c'est insupportable. Mais on est où? On est où, là? C'est invivable, en fait. Ce quartier, lorsque le PSG gagne, c'est invivable. Mais je me demande même s'il ne faut pas mettre la responsabilité, je ne sais pas, sur le Paris Saint-Germain, enfin, sur quelqu'un. À un moment donné, on ne peut pas vivre, c'est pas normal de se dire qu'on habite dans ce quartier, on doit subir ce genre de désagrément et qu'on doit se taire et qu'on doit plus rien faire. C'est comme ça. Mais attendez, mais on est où, là? Franchement, c'est mes enfants qui se réveillent comme ça. La demi-finale qui se réveille la nuit à cause des mortiers. La finale, le moment où ils gagnent. Le moment où ils fêtent, ils se réveillent. Mais en fait, c'est que mes enfants, quand le PSG gagne, en fait, il ne peut plus dormir, il ne peut plus être tranquille. Et franchement, moi, ça me rend, vraiment, ça me rend fou.
Oui, mais vous savez, Samuel, ça va aller au-delà du PSG. Dans 15 jours commence la Coupe du Monde. Il y a beaucoup de craintes sur les soirs de victoire de l'équipe de France lors de cette Coupe du Monde, surtout si la France va loin. Imaginez une quart de finale, demi-finale, finale. Là, ça dépassera le Paris Saint-Germain. On peut craindre les mêmes violences et mêmes débordements ces soirs de match.
Vous voyez, Arsenal a perdu la Ligue des Champions, mais ils ont fêté leur titre de champion d'Angleterre. Il y avait 900 000 personnes dans la rue. Il n'y a pas eu un problème.
Parce que, par exemple, excusez-moi, mais Samuel, là, vous parlez de votre quartier autour du Parc des Princes, mais il y a des villes comme Montluçon, comme Clermont-Ferrand, qui ont connu des incidents. Ouais, là, Clermont-Ferrand, si la communauté parisienne à Clermont-Ferrand doit pas être
mais c'est
importante.
Ça, c'est pourquoi ça déborde, Samuel. Pourquoi ça déborde,
c'est la bonne occasion.
Samuel.
Mais pourquoi ça déborde? Parce qu'il y a de l'impunité, tout simplement. Mais parce que, tout simplement, aujourd'hui, moi, j'ai vu ces jeunes devant les policiers sans casque faire prendre des sens interdits, mais il y a de l'impunité. Et vous voulez que je vous dise pire? C'est que moi, ma voiture, que je galère à la garer en bas du Parc des Princes, j'ai des enfants, je suis en situation de handicap, j'ai pas le choix d'avoir une voiture, malheureusement, pour ceux qui considèrent qu'à Paris, on n'a pas besoin d'une voiture. Mais ma voiture, ils me l'enlèvent, moi, ma voiture, alors que j'ai pas le choix. Les gens se garent n'importe où, n'importe comment. Mais tout simplement, c'est que moi, ma petite voiture, ils sont obligés de me l'enlever parce qu'ils considèrent que je suis mal garé, mais les gens qui se baladent en scooter, ils ne peuvent rien faire, en fait.
Mais oui, parce que vous êtes un honnête contribuable, un honnête citoyen. Bon, vous êtes
si
Nicolas.
Je puis voilà. Là, on est beaucoup dans la déploration, on n'est pas dans les solutions. Alors, il faut arriver à voir que on a de plus en plus de jeunes en France qui sont en rupture complète avec le reste du pays. Il faut le voir quand même comme c'est. Ce sont pour beaucoup, j'espère ne pas me prendre une fatwa pour avoir dit ça, ce sont pour beaucoup des jeunes issus de l'immigration. On l'a pas mal vu. Donc moi ce que je pense. Bon, c'est des jeunes profils racailles, si tu veux.
C'est plus des voyous qu'autre chose.
Appelle-les comme tu veux. Moi, je dis, ce sont des racailles. Donc, ce que je dis, ceux qui ont la binationalité, je pense qu'il faut maintenant les déchoir de leur nationalité. Je pense qu'on ne peut plus supporter une telle agression contre notre pays. Deux, je pense qu'il faut rétablir le service militaire. Ça va aussi faire hurler certains, mais moi je pense que ces jeunes, ça leur ferait beaucoup de bien de passer un an avec les militaires français. Ça ferait d'ailleurs du bien aussi aux enfants de bourgeois, ça ferait du bien à tout le monde. Mais enfin, ceux qui cassent tout, ceux qui arrivent pas à s'exprimer autrement qu'en faisant ça, je suis désolé. Moi je pense qu'un bon petit coup de service militaire d'un an, je suis sûr que ça leur met du plomb dans la tête. Et trois, il faut arriver à faire en sorte, effectivement, comme l'a dit Barbara, que ces jeunes ne décrochent pas scolairement dès la classe de 6e ou 5e. Donc là, il faut sanctionner les parents, il faut responsabiliser les familles. Mais il faut sanctionner les parents. Il y a
un moment donné, c'est
insupportable. Et dernier élément, il faut une révolution pénale, parce que moi, je pense que ce qu'on va appeler, ce qui sera plaidé comme une atteinte au bien, vous comprenez, c'est pas grave, ça n'est qu'un abribus, ça n'est qu'une boutique Nike, ça n'est qu'une voiture, ça n'est qu'un tir de mortier sur des policiers. Bon,
pourquoi une bibliothèque?
Tout ça, moi je considère que c'est une telle rupture avec le reste de la société. Pour moi, ça doit être sanctionné par des mandats de dépôt immédiats.
Juste une question. Pourquoi lorsque l'Espagne gagne, pourquoi lorsque le Maroc gagne, il y a pas ça dans les rues? Vous avez vu quand le Maroc a gagné la CAN, bon, ensuite on leur a enlevé, mais peu importe. Vous avez vu la fête dans les rues de Rabat, de Casablanca, etc. Des gens qui fêtent normalement une victoire de football. L'Espagne, pareil.
C'était le Sénégal qui avait gagné, on leur a enlevé.
Au Sénégal aussi, ça se passe bien. Je crois qu'ils sont pas en train de démonter des feux tricolores. Ben en France, non. Pourquoi? Parce que le feu tricolore, ça paraît bête comme ça. On se dit, mais pourquoi ils démontent? Moi, franchement, quand j'ai vu les images de cette horde qui vient et qui secoue comme des débiles un feu tricolore, je me suis dit, mais pourquoi le feu tricolore? Non, mais en fait, ils détruisent la seule chose qui tient un peu debout. Ils ont l'impression de détruire la République parce qu'ils secouent un feu tricolore.
Merci à Samuel d'avoir été avec nous.
Ils n'ont plus rien à la cafetière, c'est tout.
Riverains autour du Parc des Princes.
Pourquoi? Parce qu'ils vont pas à l'école.
Ras-le-bol de cette impunité, ras-le-bol des casseurs. 9h20, pourquoi est-ce que ça a encore débordé? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? C'est au 32-16 qu'on en discute avec vous, il est 9h20.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
Continue d'évoquer. évoquer les violences qui ont eu lieu après le match du Paris Saint-Germain, après la victoire contre Arsenal en Ligue des Champions dans la soirée de samedi. Ça a duré jusqu'à très tard. Il y a encore des gardes à vue. On verra quelles sont les comparutions immédiates et pour quels motifs et quelles sont surtout les condamnations. Farouk est à Montreuil du côté de la Seine-Saint-Denis, veut réagir avec nous dans les GG, dans les grandes gueules. Bonjour Farouk.
Bonjour Alain, bonjour
pourquoi,
Olivier. Bonjour
pourquoi est-ce que ça déborde à chaque fois?
Pourquoi ça déborde? C'est parce qu'il y a une rupture entre cette jeunesse, entre les Français et puis les responsables politiques, parce qu'on n'arrive pas à un moment donné, entre l'institution et les responsables politiques, à régler ces questions de sécurité, à régler ces questions sociales. Alors ça ne résume pas, bien évidemment, ces questions violentes. Moi, par exemple, j'ai été à l'étranger voir plusieurs matchs, notamment lors de la Coupe d'Afrique au Maroc. Avant de terminer, je voudrais juste féliciter le Paris Saint-Germain qui a gagné quand même la deuxième Ligue des Champions. Et féliciter Nice, le club d'Alain Marchal qui a réussi à se maintenir en Ligue 1.
Très belle victoire, 4-1 contre Saint-Etienne. Voilà. Merci Farouk, merci.
Donc j'ai été à l'étranger, j'ai été par exemple à la Coupe d'Afrique au Maroc, et par exemple quand vous allez voir les matchs là-bas au Maroc, vous avez entre les policiers et puis les supporters, quels qu'ils soient, une connexion, ça se tape dans les mains, ça discute.
Parce qu'il y a un respect.
Il y a un respect, et là aujourd'hui il y a une rupture entre, pas les policiers et les Français, mais la jeunesse, mais plutôt entre les responsables politiques. C'est pour ça que moi, j'ai deux propositions. La première, c'est que toute la casse qu'il y a eu le soir du match, je propose que tous les responsables politiques, les ministres, remboursent. Parce que c'est eux qui ont failli. Oui,
non. Je propose qu'ils remboursent. Faut arrêter de déresponsabiliser les gens à un moment donné.
Oui, mais... Farouk, je vais aller dans votre sens. Là, oui. On a le nombre de comparutions immédiates cet après-midi. Vous savez combien?
200, 300?
Non.
700 et des brouettes.
Non, comparutions immédiates.
Comparutions immédiates, pardon.
50.
11 seulement.
C'est tout?
Ah, 11.
C'est la procure... Ah non, c'est 700 arrestations.
La procure de Paris, 11. Donc on a 800 interpellations dimanche. La plupart ont été relâchés et finalement on a seulement 11 comparutions immédiates. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres procès. Je passe.
Il y en aura peut-être d'autres dans la semaine.
Mais oui, mais wow, attendez, 11 comparutions. Oui. Pourquoi ils vont être jugés?
C'est la grande élite là.
Quasiment exclusivement pour des violences contre les forces de l'ordre. Parce que c'est ça qu'on a retenu, on a bien raison. Parce que je rappelle qu'il y a eu 178 policiers blessés. Mais ça veut dire que finalement, tous ceux qui ont cassé, qui ont pillé, c'est impunité. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas attrapés, ils ne sont pas jugés. L'année dernière, il y avait finalement une trentaine de personnes qui avaient été seulement jugées en comparution immédiate et quelques-uns ont eu des peines de prison.
Et aucun n'en a fait de la prison puisque c'était que du sursis.
Et aucun n'en a fait. Donc, moi, sincèrement, il y a un problème de la réponse judiciaire, de l'implication des parents quand il s'agit de mineurs. Et donc là, on a raison d'interpeller les politiques parce que c'est des réponses politiques.
Cher Farouk, moi j'ai une autre proposition.
C'est ce que j'ai fait.
Ces jeunes, pour la plupart, sont soit mineurs, soit de toute façon, ils sont pas autonomes pour la plupart d'entre eux. Ils sont encore domiciliés chez leurs parents. Ça veut dire que leurs parents ont des impôts qui sont liés à la présence de leurs enfants majeurs à charge. D'accord ? Donc moi, je propose que les parents, parce que la plupart de ces jeunes ne travaillent pas ou sont insolvables ou sont ont des emplois qui ne leur permettent peut-être pas de réparer, je propose que ce soit les parents qui réparent. Et si les parents gagnent peu, ce n'est pas grave. On leur prendra 50 euros ou 100 euros jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'ils aient remboursé ce que leur enfant a fait. C'est ça la responsabilisation des parents. Parce que si ils avaient été éduqués et civilisés, ils n'auraient pas commis ces actes.
Moi, je préfère que les jeunes, qu'on leur propose de réparer, de nettoyer, qu'ils mettent la main. Au lieu de les faire payer, c'est de leur dire, bon, vous avez cassé, maintenant vous allez réparer, vous allez nettoyer.
Il faut quand même de l'argent pour réparer, Farouk. À un moment donné, moi je suis désolée. Je passe mon temps auprès des jeunes à leur expliquer des choses. Je suis pas prof, mais j'interviens dans des collèges et dans des lycées. Et à un moment donné, moi, l'irresponsabilité qu'on met sur ces jeunes, qu'on met sur les parents, on passe notre temps à dire que ce sont la faute des politiques, la faute des policiers, ils sont trop violents. On dit que notre police
sur le maintien de l'ordre, oui.
Non mais ça, je suis d'accord.
La justice et le maintien de l'ordre, c'est
non mais ça, je suis d'accord. Moi, ce que je vois surtout, c'est que tous les problèmes et les maux de notre société résultent à chaque fois de la même chose, que ce soit de la violence sexuelle ou de la violence civique. Il n'y a pas de conséquences pénales ou judiciaires. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Charles avait raison. Pourquoi ils y vont mollo? Parce qu'ils ont peur ensuite des conséquences qu'il peut y avoir derrière. Je rappelle que les émeutes de Naël, ça a coûté quasiment 1 milliard. Hein. C'était 800 millions d'euros que ça a coûté à l'État français. Et qui a payé? C'est nous.
Oui, donc à un moment donné, je te rappelle que le gouvernement avait d'ailleurs l'intention de permettre une taxe pour rembourser.
Oui, c'est nous qui devions payer la taxe émeute. Voilà la réponse du gouvernement. Je voudrais rappeler également aussi, je suis désolée, Mais sur ces 700 interpellations, moi je les prends tous, je prends les 700, je fais un état des lieux de la note que ça a coûté, et en déplacement de force de l'ordre, en santé, en tout, en assurance, je la divise par 700 et vous vous démerdez pour payer. C'est-à-dire que les parents vont prendre en charge, soit on leur enlève les allocations, soit on leur fait une amende.
Et
j'en ai rien à faire.
Saisis la bagnole.
À un moment donné, il faut arrêter. Si t'es insolvable,
saisis sur salaire.
Mais non, mais si t'es insolvable,
sur salaire,
si
tu t'envoies les dossiers, tu prends les meubles,
si t'es insolvable et que t'es aux allocations familiales, tu coupes les allocs. Et à partir du moment où le gamin devient
majeur, dans un cadre juridique,
et au moment où le gamin il devient majeur, c'est lui qui récupère un prêt pour toute sa vie. Il faut arrêter de toujours dire c'est la faute de l'un, c'est la faute de l'autre. Je suis désolé. Ils ont des parents et c'est eux qui ont descendu les marches pour aller péter.
Je rappelle quand même que on dira ce qu'on voudra, mais les propos nauséabond de la France insoumise depuis des années, qui répète la police tue. On avait même eu Boyard ici en tant que député qui était venu, la police tue. On ricane de ça, on dit oui, c'est inadmissible, ils sont ceci, ils sont là. La LFI a raison de sa stratégie. Ils tiennent en permanence des propos qui sont dans des excès incroyables, que tout le monde, enfin, que toute personne saine d'esprit dénonce. Mais en fait, ça marche. Chez les jeunes, c'est complètement intégré. Et chez certains moins jeunes, c'est intégré également. La police tue. Pourquoi voulez-vous qu'ils aient le moindre respect pour un policier, puisque la police tue?
Tu crois que ces jeunes écoutent Clémence Guettet?
Ils ont répété ça à l'envi pendant des années et ils n'ont jamais été mis même devant la fameuse 17e chambre. Moi, je suis désolée, hein. Vu les gens qui comparaissent devant la 17e chambre, on devrait y faire comparaître ceux qui disent la police tue. Parce que c'est vraiment essentiel de la police.
D'accord, mais là maintenant, il faut voir comment on fait pour que ça ne recommence pas, puisque.
Il faut avoir du courage politique, arrêter de donner des excuses tout le temps. La dernière vous avez mon neveu qui habite à La Verrière, qui a des aides sociales, qui a des parents qui galèrent. Il n'était pas dans la rue parce que mon oncle, si jamais mon neveu il faisait une connerie, mon oncle il le chopait par le callback et croyez-moi qu'il se serait, il aurait pu s'en souvenir. D'accord. Il y a aussi la responsabilité.
On est d'accord, responsabilité individuelle, mais il y a aussi la question du maintien de l'ordre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas à chaque fois dire on met plus de policiers. Et c'est pire, parce que je rappelle qu'il y avait plus de policiers samedi soir que l'année passée.
Il n'y a pas de conséquences.
Et pourtant, il y a eu plus de dégâts. Bah oui. Donc il y a un truc qui ne va pas. Moi, j'ai bien aimé ce qu'a dit la maire LR du 8e arrondissement, je ne connaissais pas, Catherine Écuyer. Elle a dit, on pensait pouvoir gérer les flux, canaliser les passions, sécuriser les dérives. Cette logique de l'accompagnement a vécu. On ne canalise pas le chaos, on l'extirpe. Et elle a raison, je pense qu'il y a un problème de la stratégie du maintien de l'ordre, où effectivement on essaie de limiter les dégâts. Et d'ailleurs, ce que dit ensuite Nunes le lendemain, la situation était globalement sous contrôle, on a limité les dégâts. C'est le langage officiel de ceux qui nous dirigent. Est-ce qu'il ne faut pas revoir tout ça et effectivement extirper le chaos?
On va en parler avec Emmanuel. Emmanuel qui est à Metz. Bonjour Emmanuel.
Oui, bonjour les GG.
Bonjour. Vous étiez à Paris dans le 16e ce week-end, c'est ça?
Oui, alors on était en fait, on est venu de notre petite province pour passer la journée, regarder les matchs. Et on est parti à 18h45. En fait, on a anticipé parce qu'on savait que ça allait partir un petit peu en vrille. Donc, on s'est dit, on va pas partir trop tard pour pas arriver à la fin du match. Et donc, même en partant à 18h45, en fait, on sort de Roland-Garros. Et là, comme on dit, c'est deux salles, deux ambiances. Hein. On se retrouve avec des groupuscules qui sont positionnés
pour casser.
Ils sont positionnés partout. Ouais. On voit des petits jeunes. Les petits puceaux là qui ont 14-15 ans avec leur jogging, leur maillot du PSG, ils sortent des barres de fer, des battes, des bâtons. À un moment donné, ça court dans un sens, ça court dans l'autre. On commence à sentir les gaz lacrymogènes. Nous, on est obligés de courir. Moi, je suis avec deux couples d'amis, je suis avec ma femme. On se dit ça y est.
C'est les scènes d'émeute.
Ça va partir en scène. Oui, c'est une scène de guérilla urbaine. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Donc, c'est vraiment la double sanction. Nous, déjà, on peut pas regarder le match jusqu'au bout. On est obligé déjà de faire en sorte d'anticiper. Quand on sort, on est obligé de nouveau d'anticiper. C'est-à-dire qu'on regarde les groupuscules. Moi, j'ai un petit peu de feeling. Voilà, je sens un peu les choses. Donc, je regarde les groupes où j'estime c'est moins dangereux, plus dangereux. Je regarde à droite, à gauche. Où est-ce qu'on va pouvoir peut-être se planquer si ça part en sucette? Un Porsche, un hall d'immeuble, un bar. On en est là quand même. On en est là. Enfin, je sais pas si les gens réalisent. Hein. Ils sont tous là, les politiques, toujours la chose. Hein. C'est tous des Mozart, les mecs, mais en fait, c'est des Joules. Il faut qu'ils arrêtent, en fait, de penser qu'ils sont pas. Il faut qu'ils arrêtent de penser qu'ils sont compétents. Voilà. Ou alors compétents en deux mots. Mais c'est juste pas possible de voir à quel point c'est pas pris en charge, à quel point c'est pas anticipé, à quel point un jeu, en fait, pour tous ces jeunes, c'est, vous le disiez tout à l'heure, c'est un jeu. C'est un jeu, ils sont là, ils s'amusent, c'est rigolo, on va défier les forces de l'ordre, on va tout casser. Et puis alors, ce qui est encore plus rigolo, c'est que c'est nous qui allons payer les dégradations. C'est formidable, ce pays magnifique. Donc, on s'en prend plein la gueule.
Comme dirait l'autre, pleure fils de pute. En gros, c'est nous dire voilà. Ça à chaque fois à la fin. Non, mais excusez de la vulgarité, mais c'est ça qu'il a tweeté. Pleure fils de pute, ça veut dire allez-y pleurer sur ce qu'on fait, et c'est vous qui allez payer de toute façon. Moi, je suis navrée de parler aussi vulgairement, mais c'est lui qui a écrit ce.
Je trouve que maintenant nos forces de l'ordre sont devenues l'adversaire.
Ils vont avoir une petite tape sur les doigts, c'est tout ce qu'ils vont avoir en vérité.
Mais complètement.
Parce que Macron nous dit oui, on va être un placard de quoi.
Il lui dit chaque année.
Et surtout, moi j'aimerais savoir aussi, parce que je comprends que sur Internet on peut tout acheter, mais moi j'ai vu, alors j'ai pas les réseaux sociaux, donc on m'a envoyé des vidéos. Il y avait des mecs qui avaient des bazookas mortiers, ça s'appelle, qui tirent des trucs énormes.
C'est censé être interdit à la
plusieurs en rafale.
C'est censé être interdit à la
mort. Mais alors, ça c'est pareil, ça se trimballe pas dans une poche en plastique, dans une poche de survêt.
Pourtant les policiers ont saisi des wagons.
Ils les voient quoi.
Oui, mais à un moment donné, maintenant.
Y compris les dirigeants de foot, ils minimisent aussi. C'est-à-dire, Macron, c'est pas le foot, c'est pas ça le foot. Mais à quelle heure c'est pas ça le foot? Il y a que dans le foot qu'on voit ça, déjà, pour commencer. Donc arrêtez de dire c'est pas le foot.
Et moi, surtout en France. Foot, c'est pas le problème. En plus.
J'adore
et
ça.
Surtout en France.
Je regarde tous les matchs, je suis fan, j'ai tous les abonnements de tout ce que vous voulez, je regarde tous les matchs.
Est-ce que vous avez peur pour la Coupe du Monde qui arrive, là?
Alors c'est un petit peu différent parce que c'est vrai que là c'est un club et de l'autre côté c'est l'équipe nationale, mais je pense que ce sera à peu près la même chose parce que en fait tout est prétexte. C'est tout est prétexte à débordement. C'est un prétexte. Mais à un moment donné, quand on dit non, c'est pas des fans des supporters du Paris Saint-Germain.
Mais arrêtez aussi.
De dire que c'est pas des supporters. Ils avaient tous le maillot. Ils étaient
oui, mais il y a les deux.
Moi, je peux mettre le maillot.
Ça veut dire que j'ai vu. Il y a les deux, bien sûr.
Non.
Il y a aussi un effet de meute.
C'est la bonne occasion, parce que maintenant, vu qu'il n'y a aucune conséquence, soit quand on touche un policier, soit quand on dégrade, soit quand on insulte ou comme il n'y a aucune conséquence, nos forces de l'ordre sont devenues maintenant l'adversaire de Call of Duty ou de GTA. Et nos gamins se mettent, comme ils ne sont que ça et qu'ils n'ont plus aucune culture et d'intelligence, ils vont jouer à GTA en vrai.
Qui disait
Emmanuel?
Qui disait tu casses, tu répares?
Attal.
Gabriel Attal, on va en parler tout à l'heure. Emmanuel, je vous remercie d'avoir été avec nous. Vous êtes rentré à Metz, là, ça y est. Vous êtes.
On est rentré, mais moi, sincèrement, ça m'a un petit peu calmé. Mais bon, voilà, globalement, au final, ça s'est bien passé. On a marché une demi-heure, on a serré les fesses.
Il y a des belles images aussi.
Une cacahuète derrière, j'aurais fait 3 litres d'huile. Mais sincèrement, c'est pas possible parce qu'on se dit qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Qu'est-ce qu'on dit?
Le problème,
c'est l'immigration, c'est pas l'immigration. Qu'est-ce qu'on fait de ces jeunes? On en fait quoi? Ils sont là, ils sont français. Leur vote vaut autant que le vôtre et le mien.
Ah oui, puis leur vote, on sait vers où
Emmanuel,
il va aller.
Emmanuel, je vous remercie d'avoir été avec les GG, avec les grandes gueules. Bonne journée, à bientôt. Alors, est-ce que c'est un fiasco des forces de l'ordre, fiasco français, ces nouveaux débordements, voilà, vous dites oui à 97%. Dans un instant, on s'en fout pas, il est 10h20, restez avec les GG, avec les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story. RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
Vous êtes avec les GG, avec les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story, avec aujourd'hui Laura Vartre-Martinez, Charles Consigny et Barbara Lefebvre. Il est 10h moins le quart. Les GG, tout à l'heure à 10h, nous accueillerons Arthur, l'animateur, le producteur de télévision. Il sera avec nous dans les grandes gueules en attendant. C'est l'heure du On s'en fout, on s'en fout pas.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout. On s'en fout pas.
Bonjour Anaïs Inès Saints.
Bonjour les GG, bonjour à tous. Bon, les GG évidemment ne s'en fout pas, hein, mais une petite réaction quand même. Ce matin, on apprend le décès du maire d'Issy les Moulineaux, André Santini, 85 ans, réélu il y a 2 mois. L'ancien ministre sous Mitterrand et Sarkozy avait fait une brève campagne depuis son lit d'hôpital où il était hospitalisé depuis 1 an, Charles.
Écoute, je t'avoue que je n'ai rien à dire. Je ne connaissais pas la carrière d'André Santini. Voilà, je n'ai rien d'intéressant sur
On se souvient des images terribles hein, pendant la campagne des élections municipales.
Il était sorti de l'hôpital représenter pour un huitième mandat. Très il a été réélu et à l'époque, je me souviens, on s'était dit, mais est-ce qu'il n'y aurait pas des limites lorsqu'on est très malade, peut-on encore se représenter? Alors après, c'est les électeurs qui avaient choisi de le garder à la tête d'Issy Limoulineau.
Oui, mais je trouve ça triste. C'est quelqu'un quand même qui, même si bon, il a eu quand même quelques petits soucis, quelques petites affaires. Bon,
il aura marqué quand même.
Il a quand même marqué Issy Limoulineau. Il était assez proche de ses administrés. Bon, il avait parfois une politique un peu, on va dire, clientéliste quand même. Mais bon, c'était à l'ancienne, avec une personnalité assez haute en couleur. Maintenant, je pense, enfin, mon humble avis, c'est qu'il devrait y avoir des élections. On devrait refaire des élections à Issy Limoulineau. Il était très malade pendant la campagne. Je ne trouve pas tellement logique que on nomme automatiquement son premier adjoint. Il faudrait refaire des élections, me semble-t-il, quand même. Pour les gens d'Issy Limoulineau, ça me semble tomber sous le sens.
Laurent,
oui, moi je trouve. Je ne veux pas critiquer du tout ce monsieur déjà parce que je ne le connais pas et je présente mes condoléances à la famille. Mais tout de même. Quel était l'intérêt, hormis celui de vouloir à tout prix être réélu pour sa propre personne? Parce qu'on sait que dans l'état, malheureusement, dans lequel il était, un mandat de qualité, il n'aurait pas pu le tenir. Donc effectivement, oui, les administrés...
Donc, il faut refaire des élections.
Mais, voilà, je suis complètement d'accord avec Barbara. Les gens n'ont pas élu son premier adjoint. Ils l'ont élu lui, et malheureusement, moi, je serais pour refaire des élections. Mais dans ces cas-là, on peut aussi se poser la question de la responsabilité de ce monsieur, malheureusement, à devoir, encore une fois, remettre de l'argent public sur le tapis par manque de responsabilité.
Les GG, l'aide carburant pour les grands rouleurs, plus de 439 000 demandes effectuées sur 3 millions de travailleurs français ciblés. Hein. Est-ce qu'on s'en fout pas, Barbara?
Non, on s'en fout pas.
Charles?
On ne s'en fout pas.
Laura?
On ne s'en fout pas.
Chiffre annoncé par le Premier ministre Sébastien Lecornu hier, on est bien en deçà. Hein. Donc des prévisions, une aide de 100 euros versée à partir de juin que le gouvernement promet de verser dans les 10 jours après la demande. Barbara, pourquoi tu ne t'en fous pas?
Je m'en fous pas parce que ça prouve déjà premièrement que les Français sont pas des quémandeurs. Preuve en est, il y en a à peine que 430 000 qui se cassent la tête à faire le dossier sur la plateforme. Et surtout, je pense qu'ils ont compris que c'est pas exactement ce qui allait résoudre leur problème. Mmh. Aujourd'hui, ce qui va résoudre le problème des grands rouleurs, c'est le fait que leurs salaires ne sont pas à la hauteur pour vivre correctement. Il y a plein de pays où on n'a pas besoin d'un chèque carburant, d'un chèque énergie, d'un chèque ceci, d'un chèque cela pour vivre, parce qu'on a des salaires qui ressemblent à quelque chose. Donc ça prouve quand même que les Français, bon ben voilà, je comprends les 439 000 qui ont fait leur demande, mais ce n'est pas à la hauteur des objectifs du gouvernement. Mais comme ça aussi, Monsieur Lecornu pourra dire, vous voyez, on a fait quelque chose. C'est tout ce qui compte pour Monsieur Lecornu, c'est d'agir dans la com. Donc la com est là. Après, la réalité des Français, le réel, c'est autre chose.
Charles?
Non, ça montre que le gouvernement a réussi son coup, puisque l'idée était de gagner du temps et de quand même annoncer une forme d'action pour montrer que le gouvernement répondait à la hausse du prix de l'essence. Et donc là, ils ont réussi leur coup parce que, fort heureusement pour les finances publiques, tout le monde ne s'est pas précipité pour demander son chèque. Et donc la mesure, à mon avis, reste relativement indolore pour les finances publiques, bien plus que s'ils avaient, par exemple, baissé les taxes. Donc moi, je dis chapeau l'artiste.
C'est calculé.
Tout à fait.
Ouais, ben voilà, tout a été dit. Bon, voilà, on se rend compte qu'on a même pas.
Alors,
on a à peu près 10%. On a à peine 10% des gens qui se sont manifestés parce que c'est un casse-tête, parce que ça résout pas du tout le problème, mais que voilà, comme l'a dit Charles, et même si je vais radoter, ben je le fais quand même. On voit à quel point le gouvernement a été malin. Ils vont pouvoir s'auto-congratuler d'avoir fait quelque chose, mais ils vont surtout pouvoir s'auto-congratuler entre eux de d'avoir
malin,
dépensé
tout malin. Le monde. Moi, je pense que tout le monde a bien compris le système. Hein. C'est pas parce qu'ils font de la com que
encore une fois la seule.
Malin, je sais pas auprès de qui. Hein.
La seule mesure générale dans cette crise des carburants, c'est une entreprise privée qui l'a prise, c'est Total qui maintient son plafonnement à la pompe. Alors ça reste cher, mais c'est quand même moins cher d'aller prendre de l'essence chez Total qu'ailleurs.
Là où les autres pays ont baissé la taxe, ont baissé les taxes assez rapidement. Parce qu'il y a eu un coût pour les finances publiques pour ces pays quand même aussi.
En plus, c'est un coût qui se prolonge parce que là, on n'est pas sorti de la crise.
On n'est pas sorti de la guerre, effectivement, pour le moment. Quoi.
Les GG, c'est le bébé d'Emmanuel Macron, 9e et peut-être dernier sommet de Choose France. Le chef de l'État joue les verts du pays dans l'espoir.
Ça a peut-être repris par son successeur.
Dans l'espoir d'y attirer un nouveau record d'investissement étranger. Des dizaines de grands patrons se réunissent au château de Versailles à partir d'aujourd'hui. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Charles ?
On s'en fout pas.
Laura ?
Je m'en fous.
Barbara ?
On s'en fout pas.
Alors l'année dernière, 20 milliards d'euros avaient été récoltés, mais cette édition pourrait être exceptionnelle.
Promis.
Bon, investi.
Ah, c'est pas pareil.
Cette édition pourrait être exceptionnelle, les GG, avec un investissement colossal du japonais SoftBank. D'accord. Qui prévoit jusqu'à 75 milliards d'euros pour déployer, vous savez, les data centers dans les Hauts-de-France. Charles ?
Il n'y a pas grand-chose à sauver du bilan d'Emmanuel Macron, mais les investissements étrangers et l'attractivité du pays en font quand même plutôt partie. Et donc, je veux saluer ces sommets de Choose France qui, je pense, sont une réussite, qui permettent d'attirer pas mal d'investisseurs étrangers. Je pense que ce genre de barouf est utile et que Macron, pour le coup, sait plutôt y faire en la matière.
Donc le prochain locataire, l'Élysée, devra continuer ?
Il est dans son rôle. Est-ce que je continuerai ça moi-même à partir du mois de mai prochain.
Tu renouvelles ou pas l'opération?
J'ai obligé après ce que tu viens de dire.
Peut-être que je garderai, mais
avec une dimension.
Tu vois, je le ferai à ma sauce. C'est-à-dire, je le ferai peut-être pas au château de Versailles que je trouve un peu bling bling
dans le Jura.
L'occasion.
Oui.
Non, mais ça peut être
Jura.
Au château de Vincennes, par exemple, qui est plus sobre, qui est très beau aussi, qui est une plus sobre. Voilà, ça s'appellera Choose Charles.
Avant, il faut Choose Charles pour que.
Une fois que les Français Moron Choose, je pourrais dire aux investisseurs étrangers.
Choose Charles avant.
Choose
génial, France. L'alternance. Tu refais la même chose.
Je pense que c'est un des rares.
Ah oui, il dit que c'est un des rares trucs.
Rares actifs qu'on peut garder du jeune Macron.
Bah oui, donc c'est des investissements industriels, si j'ai bien tout compris.
Tout à fait.
L'année dernière, on a perdu 20 000 emplois dans l'industrie en France. Alors moi, je veux bien, mais je veux pas casser l'ambiance et Choose Charles, Choose business aussi. Moins 20 000 emplois industriels. Le chômage qui recommence à repartir à la hausse. Alors, moi, je veux bien, mais vous savez, quand vous appelez des investisseurs étrangers, c'est formidable, mais si c'est pour venir implanter en France uniquement des IA et du cloud, c'est pas là que vous allez avoir non plus beaucoup de travailleurs français, d'ouvriers français qui vont venir travailler. Vous savez, les grands data centers, c'est comme les dark factories en Chine, hein, c'est-à-dire que c'est des usines, il y a 10 mecs qui bossent et puis c'est tout. Donc moi, je veux bien, on nous parle de milliards d'euros, très bien, mais ce ne sont pas des emplois. Moi, ce que j'aimerais, c'est que ça fasse travailler des gens en France.
On pourrait parler en nombre d'emplois.
Il y a aussi santé, pharmacie, la transition écologique, la décarbonation. C'est ça les trois secteurs essentiels de Choose France. Mais il y a aussi beaucoup, beaucoup là. J'ai vu une entreprise chinoise qui va implanter des data centers dans les Hauts-de-France. Tant mieux pour Monsieur Bertrand et tant mieux pour Monsieur Macron qui vont se pavaner. Ça va pas faire beaucoup d'emplois. Voilà. Donc, excusez-moi.
Ce que je trouve d'ailleurs, juste avant qu'on change d'interlocuteur, ce que je trouve d'ailleurs hallucinant, c'est que vous avez des gens qui se plaignent de l'implantation des data centers en France. J'entendais
parce que ça pompe énormément d'eau et de ressources.
Non, j'entendais mieux que ça sur France Culture. Chercheuse très sérieuse qui expliquait vous comprenez, alors les journalistes étaient émus aux larmes de l'écouter, on ne consulte pas les riverains des data centers, les habitants, on ne leur demande pas s'ils ont envie qu'il y ait un data center dans leur département, vous comprenez, c'est dingue, etc. Oui, bien sûr, non mais c'est mieux qu'il n'y ait rien, si tu veux. Si on peut avoir une bonne diagonale du vide, c'est bien mieux que d'avoir des usines, des data centers, des choses qui font tourner le pays. Voilà.
C'est
un salut amical au service public.
On a bien compris. Merci. Enfin, n'empêche que les data centers, en dehors de la question écologique qui n'est pas non plus complètement anecdotique, ça ne fait employer personne.
D'accord, mais ils sont nécessaires.
Si, mais j'ai pas dit que c'était pas nécessaire, mais je dis juste que c'est pas avec ça qu'on fait des emplois industriels.
Dans un instant, ce sera la deuxième heure des GG. deuxième heure des Grandes Gueules. Nous recevons Arthur. Il sera avec nous, l'animateur et producteur télé, avec ce livre « Même la nuit ne veut pas de moi » aux éditions Grasset. Arthur sera dans les GG. Et puis ensuite, on évoquera la campagne pour l'élection présidentielle. 5000 personnes sont venues applaudir Gabriel Attal qui a lancé sa campagne, porte de Versailles, à Paris, sur le signe de l'espoir et de l'optimisme. Est-ce que le message peut passer? 32-16 pour en discuter avec les GG.
RMC, 9h midi, les Grandes Gueules.